Tout commence là, in utero. Nous venons tous de là. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliers de milliards de cellules. Nous avons tous été des embryons, puis des fœtus. Nous sommes nés et sommes devenus des bébés. Quel bébé étiez-vous ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Non, hélas non. Nous ne nous souvenons pas de nos bébés. C'est l'une des plus grandes énigmes de la vie. C'est comment d'être un bébé ? Je m'appelle Zoé Varier et je vous propose de vous mettre à l'écoute des bébés. Et pour mieux entendre ce qu'ils ont à nous dire, peut-être faudra-t-il que vous fassiez appel à la part de bébé qui est en vous.
Donc là, vous réalisez une série sur les bébés. Mais qu'est-ce que vous auriez fait normalement si ça avait été n'importe quelle autre population humaine? Ben, vous seriez allé les voir avec votre micro pour les interroger. Mais là, c'est pas possible. Alors donc nous, une part de notre travail, c'est vraiment d'essayer de trouver des outils pour justement aller chercher ce qui se passe dans la tête des bébés. Et donc, c'est vrai que là, il y a un aspect nouvelle frontière. Parce que dans une large mesure, c'est quand même un domaine où tout est à découvrir, en fait. Il y a un autre aspect qui rend ça fascinant, excitant, c'est presque un mystère à la fois qui est personnel et universel. Vous interagissez avec un bébé, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Comment est-ce qu'on peut le savoir? Bah, il ne peut pas verbaliser ses pensées. Donc ça, c'est quelque chose dont on peut faire l'expérience. Mais à un niveau plus intime, il y a ce qu'on appelle l'amnésie infantile. C'est-à-dire qu'on ne se rappelle pas, on n'a pas de mémoire autobiographique avant l'âge de 3 ou 4 ans. Bien sûr, on apprend des tas de choses avant 3 ou 4 ans, mais on ne se souvient pas de ce qu'on a vécu avant 3 ou 4 ans, la façon dont on raisonnait, comment on voyait les choses. Et ça, c'est quelque chose d'universel. Et donc, bah voilà, c'est vrai qu'aller voir ce qui se passe dans la tête des bébés, c'est aussi une façon, finalement, de répondre à cette question-là.
Que se passe-t-il dans la tête des bébés? Qu'est-ce qui rend les humains si différents des autres espèces animales? Dès la naissance, les êtres humains doivent apprendre et comprendre le monde qui les entoure, apprendre à reconnaître leur environnement, les personnes de leur entourage, apprendre leur langue, reconnaître les sons, les mots, et savoir comment les combiner pour pouvoir communiquer et interagir avec les autres. Olivier Mascaro est chercheur en psychologie du développement au CNRS. Il cherche à comprendre les mécanismes que les bébés et les jeunes enfants utilisent pour se représenter leur environnement social. Il cherche à comprendre les mécanismes que les bébés et les jeunes enfants utilisent pour se représenter leur environnement social. Il travaille plus particulièrement sur la perception qu'ont les bébés des relations sociales.
Vous avez toujours voulu vous intéresser aux bébés? Qu'est-ce que vous avez comme formation?
Alors, à la base, moi j'ai une formation en anthropologie et en sciences cognitives. Et ce qui m'a amené au bébé, c'est passé plutôt par l'anthropologie, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait au départ, c'était les croyances religieuses. Et donc, j'ai été amené à m'intéresser aux phénomènes de croyance et de crédulité. Et ce qui m'a amené à m'intéresser, donc, pour comprendre la crédulité, en fait, ben, c'est chez l'enfant, finalement, que ça commence, et c'est là qu'on peut vraiment comprendre ce qui se passe. Donc, ça m'a amené à m'intéresser aux enfants et aux bébés. Mais après, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, c'est un domaine tellement fascinant, en fait, la recherche chez le bébé, que je suis restée, finalement, dans ce domaine.
Si nous, adultes, aimons observer les bébés, sachez que les bébés nous observent aussi. Ils nous observent même très attentivement. Et cela, dès la naissance.
Les nourrissons sont un petit peu comme des sociologues, en quelque sorte, qui étudient ce qui se passe autour d'eux, la société autour d'eux, et en fait, ils forment des attentes, et ils se représentent les relations et comment elles sont organisées au niveau des gens qui sont autour d'eux, et puis, de manière générale, au niveau de la société.
Et ça, ça leur permet de comprendre le monde qui les entoure, et de comprendre aussi la place qu'ils ont dans les relations autour d'eux, enfin dans les relations dans lesquelles ils sont impliqués.
Et voilà, c'est un peu les deux grandes fonctions auxquelles on peut penser pour ces mécanismes. La première, c'est que le monde social humain, il y a des grandes régularités, comme on disait, mais ensuite c'est d'une complexité folle, évidemment. Et donc, pour être prêt à rentrer dans la société et interagir avec les gens, il faut ces compétences-là. Ce qui est intéressant, c'est que la petite enfance, c'est une phase pendant laquelle les enfants peuvent observer sans être directement engagés dans toutes ces relations. Et finalement, il y a un mécanisme d'apprentissage dans un environnement qui est, entre guillemets, sécurisé, finalement. Donc ça, c'est une première chose. Apprendre un petit peu quelles sont les relations des gens autour d'eux. Et puis, la deuxième dimension que vous évoquiez, c'est se situer soi-même dans cet environnement social. Et alors, on a des raisons de penser que ces mécanismes, ils peuvent servir cette fonction-là. Par exemple, il y a certaines études qui montrent que les enfants vont être sensibles aux relations justement d'affiliation entre leurs parents et d'autres personnes pour inférer si eux-mêmes ont une relation positive avec cette tierce personne. Donc s'ils voient leurs parents par exemple imiter une petite peluche, ils vont réagir plus positivement lorsque cette peluche va leur parler que quand elle n'a pas été imitée par leurs parents. Donc ils utilisent les relations qui existent entre leurs parents et une tierce personne pour inférer quelles seraient finalement leurs propres relations avec cette tierce personne. Et donc se positionner eux-mêmes dans l'environnement social.
Mais ce que vous décrivez, c'est des bébés hyper observateurs.
Extrêmement observateurs. Alors ça, c'est quelque chose qui est une leçon générale de notre domaine d'étude. C'est que les bébés sont de très grands observateurs, des observateurs finalement extraordinaires, qui apprennent des tas de choses de ce qui est présent dans leur environnement. Et ça se manifeste dans la façon même dont ils vont orienter leur attention dans leur environnement.
Les bébés sont donc de très grands observateurs, mais ils ne parlent pas. Alors comment les chercheurs comme Olivier Mascaro les interrogent-ils sur leur compréhension de leur environnement social ?
Une des grandes méthodes qu'on utilise, c'est le regard en fait. Comment le bébé oriente son regard ? Qu'est-ce qu'il va préférer regarder ? Et qu'est-ce qu'il va regarder un petit peu plus longtemps ? Et ce qu'on a pu observer, mais ça c'est dans une très grande variété de domaines, pas que le domaine social, dans toutes sortes de domaines, les bébés ils vont regarder un petit peu plus longtemps des scénarios qui pour eux sont un petit peu plus surprenants, un petit peu plus difficiles à traiter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on leur présente quelque chose qui va contrevenir à leurs attentes, donc une situation dans laquelle il y a la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau, eh bien, ils vont focaliser leur attention sur ce type de scénario. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans une grande variété de domaines et qui montre qu'effectivement, il y a des capacités d'observation, d'apprentissage qui sont, oui, effectivement, exceptionnelles chez le bébé.
Mais aussi de conceptualiser, parce qu'ils observent, mais ils en tirent des grands principes, donc ils conceptualisent. C'est ça aussi que vous êtes en train de me dire. Si j'imite la peluche, alors je peux être copain avec la peluche, c'est un raisonnement.
Tout à fait. Longtemps, on pensait traditionnellement que le bébé, il avait surtout les informations qui étaient issues de ses sens, en fait. Ce qu'il pouvait voir, toucher, sentir. Et c'est incontestable qu'il y a toutes ces informations-là. Mais tant qu'on pensait ça, ça soulevait un problème très profond. C'est comment est-ce qu'ils arrivaient à structurer leurs pensées s'ils avaient que finalement ces données issues de leurs sens. Et donc, on pensait que le bébé, il naissait dans une confusion terrible où finalement, il avait du mal à organiser toutes ces informations. Or, ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà probablement des compétences préexistantes qui ont une nature en partie abstraite qui leur permettent d'organiser toute cette information. Justement, quand ils voient une scène, comprendre que dans cette scène, elle se découpe en objets qui ont certaines propriétés. Quand ils voient des gens qui interagissent, comprendre que ces gens ont des buts, que ces buts peuvent entrer en conflit ou que ces gens peuvent avoir des relations sociales. Donc, ces différents éléments-là qui peuvent guider l'apprentissage.
Est-ce que cela voudrait dire que les bébés ont une perception et une compréhension des relations sociales innées ? Souvenez-vous, dans les épisodes précédents de ce podcast, nous avons parlé des connaissances noyaux. Pour rappel, les connaissances noyaux sont des connaissances qui ne sont pas le résultat d'un apprentissage et que les bébés portent en eux. Est-ce que la perception et la compréhension des relations sociales pourraient faire partie des connaissances noyaux ?
Oui, effectivement, on peut le penser. Alors, c'est-à-dire qu'il y a peut-être certains types d'interactions, de relations qui sont particulièrement développées chez l'être humain, pour lesquels là, il y aurait des représentations qui peuvent être aussi des connaissances noyaux qui sont propres à l'être humain. Par exemple, une chose qui est très développée chez l'être humain, qui est beaucoup moins développée dans d'autres espèces, c'est la communication, et notamment la communication verbale. Ça, c'est quelque chose de très spécial. On est en train de parler, je produis des sons avec ma bouche, mais en fait, en faisant cela, j'ai l'intention de vous communiquer quelque chose et vous reconnaissez cette intention. Tout ça se passe de manière complètement invisible. Il n'y a rien qui le dit. Alors maintenant, il faut se mettre dans la peau d'un nourrisson qui arrive. Lui, il entend des gens qui produisent des sons. Comment est-ce qu'il en arrive à penser que dans cette situation-là, il y a une intention de transmettre de l'information et ultimement, ce qu'il va arriver à comprendre plus tard, que effectivement, ça conduit à des changements dans les représentations, ce que les gens pensent, ce qui se passe dans la tête des gens. Donc là, on peut penser qu'il y a peut-être certaines compétences de base, par exemple pour se représenter cette situation de communication, qui serait propre à l'être humain, qui ne serait pas forcément partagée par toutes les espèces, mais qui permettrait à l'enfant, très tôt, de s'intéresser à la communication et notamment d'essayer d'accéder au sens de ce que les gens communiquent.
Que se passe-t-il dans la tête des bébés ? Olivier Mascaro est chercheur en psychologie du développement au CNRS et membre du labo Bébé de l'Université Paris-Cité. Si j'ai voulu le rencontrer, c'est parce qu'un de ses sujets de recherche a piqué ma curiosité. Olivier Mascaro étudie chez les bébés la perception des relations de domination. Jamais je n'aurais imaginé que l'on puisse interroger les bébés sur ce sujet. Mais pourquoi s'intéresser aux relations de domination ?
Vous, pourquoi vous êtes particulièrement intéressé aux relations de domination, au pouvoir, aux relations de pouvoir ?
Alors, dans ce contexte-là, en fait, les relations de pouvoir, elles me paraissaient intéressantes parce qu'elles sont présentes, justement, pas seulement chez l'être humain, mais elles existent aussi dans une grande variété d'espèces. Et évidemment, c'est très très variable les relations de ce qu'on appelle de dominance selon les espèces animales. Ça peut se traduire de manière très très différente. Et chez l'humain, ça peut se déployer dans tout un ensemble de contextes, donc il y a une très très grande variété. Mais quand on s'intéresse à ces relations d'un point de vue structurel, par exemple justement à la façon dont elles sont organisées, eh bien on observe des grandes régularités qui sont partagées entre plein d'espèces qui sont présentes aussi dans toutes les sociétés humaines. Et donc, on a des raisons de penser que peut-être, justement, c'est là qu'on pourrait trouver des compétences noyaux au niveau relationnel.
Bonjour.
Après, il y a plein d'autres types de relations qui sont très intéressants au même titre à étudier chez le bébé. Par exemple, la compréhension des relations entre parents et enfants, ou en tout cas, un individu qui reçoit du soin et un individu qui donne du soin. Donc ça, c'est une relation qui est fondamentale chez le bébé. On sait que, par exemple, il y a un mécanisme d'attachement avec les gens qui s'occupent de l'enfant, qui est bien décrit, bien étudié, et qui est fondamental, en fait, pour le développement du bébé. Mais en parallèle, on peut s'attendre à ce que les bébés soient capables justement de se former une représentation de ces relations-là entre les gens qui s'occupent et ceux dont on s'occupe, donc cette relation parent-enfant. Un autre type de relation qui est fondamentale qu'on retrouve dans beaucoup d'espèces, c'est des relations d'affiliation, des relations positives entre les individus qui s'entraident dans certaines situations. Par exemple, ces relations-là, on les retrouve dans plein d'espèces de primates non humains. Il y a des familles qui ont des relations plus proches les uns avec les autres, qui vont s'épouiller les uns les autres. Et de la même manière, chez l'être humain, eh bien oui, il y a des relations d'amitié, d'affiliation. Et donc, pareil, on peut s'intéresser à la façon dont les nourrissons peuvent se représenter certaines de ces relations d'affiliation. Par exemple, on a pu mener des projets où on regarde quels indices ils vont utiliser pour savoir qui est ami avec qui peut être affilié avec qui. Alors, un indice auquel les bébés sont très sensibles assez tôt, c'est l'imitation, par exemple. S'il y a plusieurs individus qui se comportent de la même manière, donc qui réalisent les mêmes mouvements, eh bien, ils vont s'attendre à ce que ces individus aient tendance à se regrouper et puissent avoir aussi des interactions positives les uns avec les autres. Donc ça, c'est quelque chose, pareil, qui émerge très tôt. Alors, les premiers résultats, là, vraiment, c'est à l'âge de 3 mois. Mais après, il y a une complexification de ces mécanismes, pareil, au cours des premières années de vie. Ou alors, un autre signal, donc ça, c'est pas des études qu'on a menées, nous, mais ouais, je parle un petit peu aussi de ce qui a été fait au niveau du domaine, en général.
C'est-à-dire des comportements sociaux.
Oui. Un autre indice pour inférer les relations d'affiliation, c'est quelque chose d'étonnant, c'est le partage de salive. Alors, c'est vrai que si on se dit, bah, des gens qui mangent ensemble ou des gens qui s'embrassent, bah peut-être que c'est des gens qui ont une relation proche. Ça, c'est, en tant qu'adulte, ça nous paraît intuitif. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que même des nourrissons dès l'âge de 8 mois, ils vont être sensibles à cet aspect-là. Ils vont s'attendre à ce que des individus qui partagent de la salive... Alors, dans ces études-là, on ne leur montre pas des gens qui s'embrassent, on leur montre vraiment des gens qui vont partager de la nourriture, par exemple.
Quoi d'autre ?
Alors, ou quoi d'autre ? Alors, ils ont utilisé aussi des scénarios qui sont des scénarios assez étonnants, où en fait, il va y avoir un partage de salive, mais simplement avec quelqu'un qui met son doigt dans sa bouche et qui met le doigt dans la bouche d'une autre personne. Et donc, ils vont voir quelles attentes ça génère chez le nourrisson. Ce qui est intéressant, c'est que dès l'âge de 8 mois, ils vont s'attendre à une relation d'affiliation plus forte dans ces situations de partage de salive que dans d'autres types d'interactions sociales. Donc il y a certains signaux que les nourrissons vont utiliser très tôt pour inférer, pareil, qui est ami avec qui. C'était pour dire que voilà, il n'y a pas que les relations de pouvoir, mais il y a plein d'autres relations auxquelles les nourrissons sont sensibles très très tôt.
Les nourrissons, donc, perçoivent et comprennent les relations d'attachement, les relations d'affiliation et d'amitié. Mais qu'en est-il des relations de domination ? Olivier Mascaro a cherché à comprendre si les bébés étaient sensibles aux relations de pouvoir et pour cela, il a mis en place une expérience.
Alors, donc là, on va avoir quoi, Olivier Mascaro ?
Là, c'est une étude, en fait, justement, où on s'intéresse à la représentation des relations de pouvoir. Et donc, on montre une interaction entre deux individus. Donc, il y a des petits sons aussi pour attirer l'attention de l'enfant sur ce qu'on lui présente. Et c'est vraiment comme un petit dessin animé. Alors, dans ce scénario, on a deux individus qui sont en compétition pour occuper un espace. Donc, il y a un petit espace qui est délimité au centre de ce qu'on montre à l'enfant. Et il y a deux personnages qui veulent tous les deux occuper cet espace, mais il est trop petit pour que les deux puissent être dedans à l'intérieur. Et il y en a un qui va monopoliser l'accès à l'espace.
Alors, les dents de les deux personnages, il y a un rond bleu avec des yeux ou un triangle rouge avec des yeux.
Et donc là, on a cette petite balle bleue qui gagne, qui l'emporte sur le petit triangle rouge. Et ce qu'on voulait voir dans cette étude, c'est est-ce que les enfants s'attendent à ce que cette relation de pouvoir, elle ait une certaine stabilité. C'est-à-dire qu'elle ne s'exprime pas juste dans une seule situation, mais elle va se généraliser à différentes situations.
C'est-à-dire, est-ce que la boule bleue va gagner à tous les coups ?
Va gagner à tous les coups dans de nouveaux contextes. Donc, on va montrer dans la situation de test un contexte dans lequel les deux personnages, cette fois-ci, vont collecter des objets. Et d'abord, ils les collectent individuellement. C'est pour que l'enfant puisse établir que chacun veut avoir cet objet. Et puis, on a une situation dans laquelle les deux personnages veulent le même objet. Alors, on veut voir, est-ce que les enfants s'attendent à ce que ce soit la boule bleue ou le triangle qui récupère l'objet. Et on va montrer deux types de scénarios en fait à l'enfant. Soit un scénario où la relation est maintenue, la boule bleue gagne, ou alors un scénario où la relation est inversée. Cette fois-ci, c'est le triangle qui gagne. Et on va mesurer combien de temps l'enfant va passer à regarder l'écran jusqu'à ce qu'il se détourne pendant 2 secondes ou plus. Et c'est cette mesure-là qui nous donne la mesure d'intérêt de l'enfant. C'est une mesure indirecte du niveau de traitement cognitif que fait l'enfant, peut-être de sa surprise. Donc on suppose dans ce type d'étude que l'enfant va regarder plus longtemps quelque chose qui est un petit peu plus surprenant, un petit peu plus difficile à traiter pour lui. Et donc il va regarder plus longtemps quand la relation est inversée plutôt qu'elle est maintenue.
C'est-à-dire quand c'est le petit triangle rouge qui va récupérer l'objet.
Et voilà, quand finalement le petit triangle rouge qui perdait systématiquement se met à gagner dans une nouvelle situation. Et on observe que c'est le cas effectivement dès l'âge de 15 mois ici. Et donc, ils se sont attendus à ce qu'il y ait cette relation de pouvoir, donc, qui a une certaine stabilité dans différents domaines. Ça, c'est les tout petits bébés.
C'est-à-dire ?
Alors, je me rappelle plus de l'âge exact, mais c'est avant un an, je pense. Et si par contre, entre 1 et 2 ans, il va y avoir un changement. C'est-à-dire que là, ils vont commencer à préférer plutôt celui qui a gagné. Et donc celui qui a un peu plus de pouvoir.
Les expériences que mène Olivier Mascaro démontrent donc que les nourrissons sont sensibles aux relations de pouvoir quand ils observent des personnes qui interagissent. Et particulièrement quand il y a opposition entre les buts des individus et ceux dès les premiers mois de la vie.
Les premiers résultats, c'est à 6 mois, en fait.
C'est fou.
Où on va pouvoir montrer que quand il y a... Là, c'est des groupes d'individus. Donc, c'est des petits dessins animés qu'on va leur montrer. Mais des groupes d'individus qui ont des buts opposés, ils vont s'attendre à ce que le groupe où il y a le plus d'individus ait plus de chances de réaliser ses buts. Et donc ça, ça apparaît à partir de 6 mois. Autour de 9 mois, on va voir une sensibilité à la taille des individus. Est-ce qu'un individu est plus grand ou plus petit ? Ils vont s'attendre à ce qu'un individu plus grand ait plus de chances, ben voilà, de l'emporter quand il y a une situation d'opposition entre les buts. Et un petit peu après, ce qu'on observe, donc là, ça va être autour de 14-15 mois, c'est carrément un raisonnement sur des relations qui vont être stables et aussi une organisation de ces relations en hiérarchie. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à réfléchir non pas seulement aux relations sociales, mais à la façon dont elles sont organisées dans un groupe. Et par exemple, comment une hiérarchie peut être organisée au sein d'un groupe.
Et ça, à partir de 14 mois.
Oui. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit quand on va leur montrer plusieurs relations entre individus. Et on va voir, on va créer des situations dans lesquelles ces relations, elles s'organisent d'une façon qui est intuitive, d'un point de vue adulte, ou d'une façon qui est peut-être un peu surprenante. Par exemple, est-ce que ces relations, elles s'organisent plutôt sous la forme d'une pyramide, avec un individu qui a du pouvoir sur plein d'autres individus, ou l'inverse, c'est-à-dire plein d'individus qui ont du pouvoir sur un seul. C'est un peu une situation qui, pour les adultes, est un peu contre-intuitive. Vous avez il y a un roman, les Enfants de la rue Paul, où vous avez juste une armée où tout le monde est général, il y a un soldat, si vous voulez. C'est quelque chose qui est un petit peu étonnant pour les adultes. Ben, en fait, ce qu'on voit, c'est que pour les bébés, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils s'attendent à ce que les relations, elles soient organisées pour ces relations de pouvoir, de manière pyramidale, plutôt avec un individu qui est au-dessus de plusieurs autres, plutôt que l'inverse, avec plein d'individus qui sont au-dessus d'un autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette régularité-là, c'est une régularité qu'on retrouve dans plein d'organisations chez l'adulte humain, mais aussi quand on regarde les rapports de pouvoir. Alors, chez l'animal, on parle de relations de dominance. On observe ce même type d'organisation qui va se retrouver dans plein d'espèces. Vous allez voir des éléphants, vous allez voir des primates non humains, vous allez voir même des insectes sociaux, et vous allez retrouver cette régularité, cette tendance à être plutôt en forme de pyramide, plutôt que, donc nous on dit en forme d'arbre, avec plusieurs individus au-dessus d'un seul. Donc c'est une régularité qui est très fréquente, et ce qui est intéressant, c'est que très tôt, ben, les bébés y sont sensibles. Alors d'où vient cette attente ? Ça, on ne sait pas en vérité à l'heure actuelle. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont réussi à extraire de leur environnement social en observant ce qui se passe autour d'eux ? C'est une possibilité. Ou est-ce que c'est finalement une sorte de connaissance noyau ?
Les bébés perçoivent donc très tôt les relations sociales qui structurent les sociétés. Mais possèdent-ils des valeurs morales ? Dans le prochain épisode de notre podcast « Les super-pouvoirs des bébés », il sera question de bien et de mal, de rationalité et d'efficacité. « Les super-pouvoirs des bébés » est un podcast documenté par Anna Massardier, monté par Karen Dehay, mixé par Basile Bocquer et Baptiste Collion, réalisé par Josépha Lebrun et écrit par Zoé Varier. Les super-pouvoirs des bébés est un podcast original de France Inter.